France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Un 18e cas de coronavirus a été confirmé hier en France, quelques heures après le décès d'un homme de 60 ans. Il s'agissait d'un enseignant dans l'Oise et c'est le deuxième mort sur le sol français ces dernières semaines. 18 cas donc au total, dont 6 ces deux derniers jours. À ce stade, le nouveau coronavirus par ailleurs a fait plus de 2700 morts dans le monde, contaminé près de 80 000 personnes. Désormais, les nouvelles contaminations sont plus nombreuses hors de Chine, qui était le foyer de l'épidémie. 40 pays au total sont touchés, notamment l'Autriche, la Suisse, la Croatie, mais aussi l'Algérie, la Grèce ou le Brésil. L'Arabie Saoudite, par ailleurs, a décidé de suspendre temporairement l'entrée des pèlerins qui souhaitent se rendre à la Mecque. Enfin, l'impact du coronavirus est également économique. Microsoft, par exemple, annonce que sa prévision de chiffre d'affaires ne sera pas atteinte pour ce trimestre à cause de retards dans la production. En France, les personnes placées en isolement par précaution bénéficient d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières pouvant aller jusqu'à 20 jours. C'est ce que disait hier le gouvernement. C'est un procès sous haute sécurité qui s'ouvre aujourd'hui, jeudi, dans le Pas-de-Calais à Saint-Omer, celui de Redouane Faïd. Un procès en appel pour le braquage d'un fourgon de transport de fonds en 2011. Redouane Faïd s'est déjà évadé 2 fois de prison. Après une suspension lundi à cause de la grève des avocats, les débats se sont ouverts hier au procès Fillon à Paris. Ils ont porté sur des questions de procédure. Pénélope et François Fillon sont, je vous le rappelle, poursuivis dans l'affaire des emplois présumés fictifs. Ils n'ont hier pas pris la parole lors de leur procès. Et puis notons ce bénéfice net record chez PSA en 2019, c'est-à-dire l'année dernière, 3,2 milliards d'euros. Le constructeur automobile va donc verser à ses salariés une prime d'au moins 4100 euros. Cela concerne les plus bas salaires, inférieurs à 2 fois le SMIC, une mesure saluée hier par plusieurs syndicats.
L'histoire, autrement sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Il faut nourrir le peuple. Que la population mange à sa faim est une nécessité pour le pouvoir, sous toutes ses formes, royal ou républicain, municipal ou national. De la première graine aux revendications paysannes, de la culture céréalière à l'élevage bovin, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la bidoche.
Il faut nourrir le peuple, le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Chaque jour sur France Culture à 18h20, c'est le temps du débat avec Emmanuel Laurentin.
Le gouvernement d'Édouard Philippe s'était donné 3 semaines pour examiner le projet de loi sur les retraites à l'Assemblée nationale. Mais 2 semaines à peine après le début de l'examen du texte, des voix de la majorité demandent l'application du 49.3. Le temps du débat se demande donc ce qui va l'emporter entre temporisation et accélération.
Le temps du débat, ce jeudi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Avec aujourd'hui comme invité le compositeur et musicien Mathias Duplessis, qui sera ce soir, jeudi 27 février, en concert au Café de la Danse à Paris. Cette émission est préparée avec la complicité de Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, et à la prise de son ce matin, Nicolas Depagraf.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Mathias Duplessis.
Bonjour.
Alors c'est le morceau qui ouvre votre troisième album. On vient d'écouter Texas Bolero. Votre troisième album, Brothers of String, Frères de cordes, c'est bien ça?
Oui.
Après les albums Marco Polo paru en 2010 et Crazy Horse en 2016, toujours avec votre quatuor. Mais cette voix qu'on vient d'entendre, elle est qui?
Ah, ça c'est Hank Jargal, Dandavarchik, plus connu sous le nom de Epi, qui est mongol, qui joue le Morinchur, qui veut dire la vielle à tête de cheval, et qui chante extrêmement bien. Il a une voix, non seulement il pratique le chant diphonique mongol, qui permet de faire plusieurs sons à la fois, mais aussi il chante avec cette voix de haute contre, très haut perché, qui fait comme une voix d'ange, et il mélange avec les ornementations mongoles, cette voix un peu de castrat, je dirais. Donc on s'en sert régulièrement de sa voix magnifique.
Quatre instruments à cordes venus des quatre coins du monde, hein, qui constituent votre groupe, Mathias Duplessis. C'est-à-dire les violons du monde.
Duplessis et les violons du monde. Eh bien, nous avons Geoghan au violon chinois, qui habite à Paris maintenant depuis une quinzaine d'années, qui resplendit à travers le monde avec sa vielle chinoise, qu'on appelle le Erhu. Il joue aussi bien Carnegie Hall avec Lang Lang, qui est un ami d'enfance, qu'avec Feu Didier Lecoud, qui nous a quittés il y a un an.
Très cher Didier Lecoud.
Et il joue avec beaucoup de monde, et il est extraordinaire. Il fait aussi tous les violons chinois, par exemple, sur Kung Fu Panda, composé par Hans Zimmer. Ça, c'est Geoghan, donc le fameux Epi, qui est bourré d'humour et d'énergie sur scène, avec le Morinchur. Et nous avons la chance, il y a un autre Français qui joue, par contre, le Nickel Harpa, qui est cette vielle scandinave, avec des cordes sympathiques, à la façon un peu du sitar indien. C'est des cordes qui... une dizaine de cordes qui résonnent derrière les cordes qui sont jouées avec l'archet. Alors évidemment, le point commun de ces trois vielles, c'est que c'est une vielle à archet. Et moi, la guitare flamenco, ou on va dire gypsy. Donc Alyosha au Nickel Harpa, Epi et Geoghan, et Mathias Duplessis, moi-même à la guitare sèche.
Vous vous êtes rencontrés comment ?
Je suis parti de chez mes parents à l'âge de 18 ans et j'ai commencé à en vivre grâce cette vocation que j'avais depuis tout petit. Je savais que je voulais être guitariste.
Vous avez grandi où, Mathias Duplessis ?
J'ai grandi à Paris. Je suis d'une famille normande, mais j'ai grandi à Paris. Mais je suis très attaché à la nature, et je dirais, en fait, ce qui m'a beaucoup lié à la Mongolie, on va dire de façon mystique ou spirituelle, un certain, on appelle ça chamanisme aujourd'hui, mais c'est simplement cet état d'esprit qui consiste à être relié à la nature, aux éléments, au vent, aux arbres, et de se sentir qu'un avec tout ça. Et la musique, pour moi, est comme une prière qui me permet de me sentir connecté au cosmos, à l'espace, aux planètes, aux gens et à la nature.
Et ça a été depuis le début ?
Oui, oui.
Vous avez fait ce rapport nature-musique
depuis
le début ?
Oui, oui. J'écrivais quand j'étais petit, la nature m'apparaît comme une vérité. Simplement. Et
c'est étrange pour un Parisien.
Oui, c'est étonnant. Quand je suis à Paris, j'adore Paris, mais je suis relié à Paris par son passé, par son histoire. C'est peut-être simplement du romantisme. Je ne sais pas si tout ça existe vraiment. Je ne sais même pas s'il y a un rapport au mystique qui existe. En tout cas, je le ressens. C'est tout ce que je pourrais dire.
En tout cas, Mathias Duplessis, vous êtes un musicien, multi-instrumentiste d'ailleurs, mais complètement autodidacte.
Oui, oui. Autodidacte. Bon, autodidacte, on l'apprend toujours au contact des autres. Hein.
Et vous, en l'occurrence, c'est avec qui que vous avez appris ?
Beaucoup de gens sur ma route. Hein. J'apprends toujours. Tous les jeunes que je rencontre aussi qui m'apprennent, des vieux, de tout le monde. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui est un guitariste de flamenco, avec qui j'ai été à Grenade pendant longtemps, qui s'appelle Yerbita. Tous les musiciens avec qui je joue régulièrement m'apprennent toujours. Et même mon fils, maintenant, qui est pianiste de jazz, m'apprend beaucoup de choses.
Si on devait partir d'un repère chronologique, votre première guitare ?
À l'âge de 5 ans ou 6 ans, ma première guitare. Et je n'aimais pas trop ma prof de guitare, je la trouvais pas très... pas très sexy en fait, ça me branchait pas trop d'apprendre ce qu'elle me disait, mais je commençais déjà à composer des choses et mon père m'a encouragé.
Il est musicien votre père ou...
Non, pas vraiment, il joue 2-3 accords mais il n'est pas vraiment musicien, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a encouragé, qui a cru en moi et ça m'a sûrement aidé. À un moment j'hésitais entre dessinateur et musicien, mais musicien c'était plus mon chemin apparemment. Et voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette évidence dès que j'étais petit.
Longtemps, vous avez accompagné des groupes, des chanteurs.
Oui.
Vous avez aussi composé pour des films, Mathias Duplessis.
Oui.
Mais comment on vous contactait? Comment vous vous êtes fait remarquer?
C'est un mélange de tout. On peut rencontrer beaucoup de musiciens qui sont très très bons techniquement et connaissent plein de choses, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre de leur musique. Et ça, c'est un peu bon pour tous les domaines. Donc, on parle de la chance, c'est sûr, mais il faut parler aussi de la personnalité des gens. Pourquoi j'ai la chance de pouvoir en vivre et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire? Il faut faire les choses avec amour, hein, le plus avec son cœur, sans se poser trop de questions. Faut foncer. Faut être amoureux, en fait.
Et l'idée de constituer ce groupe, Les Violons du Monde, avec vous à la guitare et puis trois vielles qui viennent de Mongolie.
Oui, alors ça pourrait paraître
du
comme
Nord,
une.
Et de la Chine.
Ça pourrait paraître comme une idée de publicitaire de réunir ces trois violons. Mais en fait, ça a été une idée tout simplement humaine. C'est la même année, j'ai rencontré ces trois musiciens extraordinaires la même année et que chacun, on avait envie de faire un projet ensemble. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je veux faire un projet avec un Chinois, un Mongol et un Indien? Parce que le premier album, c'était avec Sabir en Inde. Je me suis dit, je veux faire un projet qui les réunit tous les trois, tout simplement. J'en ai parlé, c'est pas évident parce que chacun habitait dans un pays un peu loin. Et j'en avais parlé à Alain Weber, qui était le directeur de beaucoup de festivals, qui l'est beaucoup. Et il m'a dit, c'est une superbe idée. Je te fais venir, j'ai pas entendu, mais je te fais confiance. On fait venir Sabir Khan d'Inde. Mon Gyogan, il était chinois et puis il habite en Allemagne. On les fait venir et on fait cet album qui est la première fois au monde sur scène et sur un album. Ces trois vielles jouent ensemble avec une guitare. Voilà. Et puis depuis, ça fait 10 ans. Puis on est toujours frères de cordes. Voilà.
C'est vous qui composez, bien sûr, Mathias.
Beaucoup, mais les autres composent aussi. Hein, mais moi, je suis celui qui compose le plus et puis qui arrange tout ça, qui met tout ça en sauce. Quoi.
Et c'est pour faire voyager les gens dans le passé, puisque ce sont des instruments qui ont traversé des siècles. Ou c'est une communion, pour revenir à ce qu'on disait au début, Mathias Duplessis, de votre rapport à la nature?
Je pense pas qu'un artiste doit penser à pourquoi il est en train de composer et quel va être l'effet de ce qu'il est en train de faire. Simplement qu'il fasse les choses qu'il ressente, qu'il a besoin de faire, et ensuite les choses ont leur destin et touchent les gens d'une façon ou d'une autre, mais on doit pas penser à ça. On doit juste penser à être sincère au moment de faire quelque chose.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Mathias Duplessis et son groupe, Les Violons du Monde, ils seront en concert ce soir à Paris au Café de la Danse. Et là, on vient d'écouter un autre morceau de votre troisième album, Brothers of String, et c'est Good Morning Guangzhou. J'espère que je prononce bien.
Guangzhou, la ville de Canton, avec voilà, Guangzhou en chinois. Quoi.
Mathias Duplessis, quels sont les instruments qu'on écoute?
Eh bien, donc,
dans ce morceau, ouais.
Il y a le nickel harpa, donc la vielle scandinave, jouée par Alyosha. Toujours le erhu, le violon chinois, joué par Gyorgan, et le Morinchor, la vielle à tête de cheval, joué par Epi.
Des vieux instruments ou...
Ce sont des vieux instruments, ah oui. Le nickel arpa, on trouve les premières traces au XIVe siècle, le erhu, c'est millénaire, et le Morinchor, il y en avait déjà sous Genghis Khan, donc en 1170, il y avait des orchestres de Morinchor. Mur, ça veut dire cheval, et Khur, ça veut dire la vielle à tête de cheval, car elle est ornementée d'un cheval au-dessus du manche. C'est une vielle à deux cordes, faites en crin de cheval, tout simplement.
Il y a d'autres instruments ?
Il y a la guitare et
la guitare.
Contrebasse. Et moi, je chante sur ce titre-là avec une voix qui n'est pas sans rappeler Bobby McFerrin. Une voix un petit peu comme ça. Et c'est un morceau qui nous est arrivé, un morceau très souriant. J'appelle ça une happy song. Un morceau où on a envie de siffloter dans la rue en souriant, en regardant le ciel. C'est un morceau qui nous est inspiré. On était coincés dans les trafics, dans ces grandes villes en Chine. On voit même pas le ciel bleu avec tous ces immeubles à gauche et à droite. Et au lieu de déprimer dans ce trafic, on a commencé à chanter un peu « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin. Et on en a fait une autre mélodie, on s'est inspiré de ça pour en faire ce morceau, voilà, tout simplement.
Ça vous arrive souvent d'ailleurs, Mathias Duplessis, de le faire, puisque déjà dans cet album, il y a deux reprises très Mathias Duplessis. Hein. Un morceau de Dire Straits, ouais. Et puis un thème très connu, puisqu'il est signé Ennio Morricone pour le western, ouais. Le Bon, la Brute et le Truand.
Exact. C'est mon western fétiche que j'adore, dont je connais beaucoup de répliques. Ennio Morricone, c'est une énorme influence pour moi. D'ailleurs, on avait déjà repris un morceau d'Ennio Morricone dans le premier album, qui s'appelait Marco Polo. Et Ennio Morricone a bercé mon enfance. C'est l'un des plus grands musiciens avec John Williams, de musique de film. Et au-delà de la musique de film, hein, il a composé des concertos, il a composé des choses. C'est vraiment un mec super intéressant.
Votre itinéraire musical, Mathias Duplessis, sort de l'ordinaire parce que vous avez commencé par avoir une passion pour la musique classique et très particulièrement pour Ravel.
Oui, alors j'ai pas commencé par Ravel, mais j'ai découvert Ravel vers l'âge de 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et bien, je suis fou de Ravel. Il y a encore pas longtemps, je prenais mon petit déjeuner tout seul et puis je regardais YouTube et je regardais un documentaire sur Ravel et je me suis mis à pleurer à chaudes larmes en écoutant une version de Scheherazade, Asie, chantée par une dame incroyable et je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, Mathias, va falloir que tu consultes, c'est pas possible d'être aussi sensible toujours à 47 ans, il faut faire quelque chose. Et j'ai trouvé ça tellement beau et j'étais toujours touché par Ravel, j'en ai les larmes aux yeux en en parlant. Je trouvais ça extraordinaire. Pourquoi lui me touche particulièrement, je sais pas. Ça me fait quelque chose.
Et donc vous avez gardé contact avec les musiciens du classique, comme on dit, ce qui ne vous a pas empêché de faire le tour du monde. Et quand je dis le tour du monde, c'est aussi le tour des scènes musicales du monde. Les musiques du monde, qu'on appelait à un certain moment la world music, la chanson, beaucoup de folk, et puis des compositions, juste des compositions.
Oui, depuis une dizaine d'années, je compose pour la guitare classique et aussi pour orchestre. Là, et grâce à un concert artiste français classique qui est pour moi l'un des meilleurs au monde, qui s'appelle Jérémy Jouve, qui est un guitariste incroyable. Et ce monde de la guitare classique, c'est un tout petit monde. Peu de gens écoutent de la guitare classique et sont au courant de ce qui se passe dans le monde de la guitare classique. Mais par contre, ce monde de la guitare classique est représenté dans tous les pays du monde. Et Jérémy passe son temps dans les festivals à jouer et représente la France. Et grâce à lui, il est tombé sur une partition à moi et il m'en a demandé une et après une autre et une autre. Et maintenant, je suis connu en tant que compositeur pour guitare. Et donc, quand je vais jouer avec les violons du monde, que ce soit en Corée, au Japon, en Chine, eh bien des guitaristes viennent me voir et me demandent de signer les partitions. Et ils jouent mes œuvres qui sont jouées dans les conservatoires. Et voilà, c'est fou. Depuis une dizaine d'années, j'ai cette autre carrière un petit peu de compositeur classique dont je ne suis pas peu fier.
Et Mathias Duplessis, comment vous utilisez les voix? Est-ce que pour vous, les voix, ce sont des instruments de musique, comme tous ces instruments à cordes, qui sont très présents dans votre formation, ou ça reste quand même
la voix? Pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a les chanteurs. Un chanteur, pour moi, c'est quelqu'un qui est né chanteur, qui va faire avec sa voix, qui a une voix et qui chante comme il respire. J'ai eu la chance de travailler avec des chanteurs extraordinaires comme Mukhtar Ali au Rajasthan, qui est un chanteur né, c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un chaman. Dès qu'il se met à chanter, ça invoque les ancêtres, c'est les esprits, la nature. Pareil pour le frère de Baba Mal, Ahmet Mal, avec qui j'ai eu la chance de jouer aussi. Monica Passos, chanteuse brésilienne extraordinaire. Donc, ce sont des vrais chanteurs, ce sont des gens qui ne se posent pas de questions, ils chantent, ils respirent.
Et vous, vous êtes un vrai voyageur, mais on va y arriver.
Et il y a les vocalistes, ce qui n'en, c'est une autre chose, je me considère un petit peu comme un vocaliste, c'est-à-dire que bon, bah, on peut chanter un petit peu avec des voix différentes, on utilise la voix comme un instrument de musique, et je peux, alors ce n'est pas de l'imitation, mais c'est comme des pédales d'effet pour une guitare, on va brancher une saturation, un écho, une réverb, une pédale wah-wah, et ma voix, je peux la moduler comme je veux, et chanter dans différents instruments avec ma voix. Voilà.
Vous faites la musique pour voyager, ou vous voyagez parce que vous êtes musicien ?
Oui, je voyage les deux. Ça me permet de voyager dans le temps, dans l'espace, aussi dans le rêve, surtout. Je fais beaucoup de choses qui sont liées au rêve. J'aime pas trop avoir le tenant et les aboutissants. J'aime bien que ce soit complètement poétique. Et pourquoi se limiter à un temps et à un espace ?
Vous connaissez le thème du fameux film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand.
Ennio Morricone, oui, Sergio Leone.
Musique composée par Ennio Morricone.
Voilà, composée par Ennio.
Et sérieusement réarrangée par vous, Mathias Duplessis, et votre groupe, Les Violons du Monde. Vous avez demandé la permission à Ennio Morricone, vous l'avez fait écouter.
J'aimerais bien qu'il écoute. En fait, à partir du moment où on ne réclame pas une part d'arrangement sur les droits SACEM, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on déclare le morceau à la SACEM, disant que c'est Ennio Morricone. Mais je ne prétends pas, j'ai pas envie de demander quoi que ce soit, donc j'ai le droit de prendre le morceau et de déclarer à 100% Ennio Morricone.
Et là, par exemple, tous les musiciens jouent avec
vous? Oui, tous les musiciens. Alors, ce qui est drôle, ce qu'on a un petit peu développé grâce, sur l'album Crazy Horse, entre autres, son deuxième album, c'est ce parallèle entre le cheval mongol et la culture mongole et la culture western. Y a beaucoup de points communs. Il ne faut pas oublier que même les Amérindiens sont en fait des Mongols qui ont émigré il y a bien longtemps. Et donc la culture du cheval, la culture chamanique, les tipis, on retrouve la yourte en Mongolie, il y a beaucoup de choses communes. Et ce côté du tac 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 tac, ou alors tuc, on retrouve dans la musique et on retrouve aussi dans la gamme qu'ils utilisent, la gamme pentatonique à 5 notes, qui est à peu près la même celle en Asie et celle qu'on retrouve aussi dans la country music. Donc il y a beaucoup de points communs et on s'est mis à inventer un peu grâce à un morceau qui s'appelait Sambarai, où on voit sur une moto, c'est un clip sur YouTube qui a bien marché. Et ce morceau-là, j'ai fait vraiment ce mélange entre les deux cultures en inventant un rythme qui marche bien entre les deux et puis en chantant dans un dialecte inventé. Et donc ça rappelle un peu de la country, mais aussi la musique mongole.
L'idée, c'était effectivement de faire des mélanges ou de rappeler le cousinage entre deux genres apparemment très différents, très éloignés dans l'espace, parce que quand même, il y a un boléro dans une ambiance western, ouais, hein, c'est ainsi que votre troisième album, uh-huh, Brothers of String, s'ouvre, mais il y a aussi A Japanese in Paris, ouais. Ça c'est une valse avec effectivement l'odeur et les sensations asiatiques, un jazz manouche, mais chinois, et même un hommage à Bruce Lee, il n'y a pas qu'un hommage au western.
Mais ce qui est fou, c'est que, en fait, tout ça, pourquoi? Parce que les musiciens, même s'ils jouent des instruments traditionnels qui viennent d'une culture traditionnelle, comme donc, celle de Gyogan, de Epi et de Alyosha, eh bien, ils sont ouverts sur le monde, ils connaissent la country, ils connaissent le jazz, ils connaissent... Après, ils ne jouent pas forcément bien toutes les musiques, mais ils adorent.
C'est ça l'idée, musique savante, classique, mélangée à de la pop culture?
Oui, mélangé à la culture d'aujourd'hui et du monde. On aime tous beaucoup, beaucoup de musiques différentes et on a envie de les jouer aussi avec nos instruments, tout simplement.
Mais alors vous qui sillonnez le monde, Mathias Duplessis, vous habitez où aujourd'hui? Vous avez quelque part où habiter?
Oui, parce que je fais beaucoup de musique de film et j'adore faire les musiques de dessins animés ou de films et je suis chez moi beaucoup pour enregistrer. Et quand je pars pas plus de 10 jours ou 15 jours. Après, il faut que je revienne chez moi. J'adore être dans mon studio et enregistrer tous mes instruments.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et si le troisième album de Mathias Duplessis et des violons du monde s'appelle Brothers of String, c'est aussi en hommage à Dire Straits, à Brothers in Arms, que vous reprenez d'ailleurs dans cet album.
Oui, oui. Beaucoup de gens sont étonnés parce qu'ils attendaient plutôt des morceaux, on va dire, de musique du monde, mais Dire Straits, c'est vraiment tellement pop. Là, c'est pop des années 80 en plus. Mais c'est un morceau qui m'avait marqué. J'étais un fou de Mark Knopfler, sa façon de jouer de la guitare en finger picking avec les trois doigts. Et je trouvais ce texte évidemment anti-militariste. À la fin, il dit « We are fools to make war on our brothers in arms ». On est fous de faire la guerre à nos propres frères d'armes. Je trouvais que faire ce morceau tous ensemble avec les tenues traditionnelles de chacun, et de ça refaisait passer un message de paix. Et comme dit Stevie Wonder, les musiciens sont les derniers soldats de l'amour. Et je trouve ça assez beau qu'il dit ça, parce que c'est vrai, on a besoin de plus en plus. On voyage dans le monde entier, on voit de plus en plus de tensions dans chaque pays. Les communautés, les unes contre les autres, les pays, les uns contre les autres, la peur du lendemain. Beaucoup, et la musique apporte vraiment de la paix entre toutes ces communautés et tous ces gens. Et on est vraiment, comme disait Steve Wonder, même si ça paraît un petit peu cucu, des soldats de l'amour.
Et les soldats de l'amour seront en concert ce soir au Café de la Danse. Merci d'être passé ce matin, Mathias Duplessis.
Merci.
Bonne matinée sur France Culture, on se retrouve demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le jeudi 12 mars à 20h à l'auditorium de Radio France, Martina Batic entraîne le chœur de Radio France dans les paysages animés de la musique tchèque. Dvorak, Martinou et Jana Tchèk jouent les guides. L'orgue et la harpe apportent leurs couleurs. En seconde partie, Szymanowski nous fait glisser vers la Pologne. Une invitation au voyage. Entrez au cœur du concert. Réservation, maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Qui a donc infecté deux personnes atteintes du coronavirus dans l'Oise, au nord de Paris? L'une est morte hier, l'autre est en soins intensifs. Pour le moment, rien ne les relie, vous l'entendrez. Nous ferons le point aussi sur la contamination plus globale à travers le monde. 40 pays sont touchés, et notamment la Corée du Nord, où le régime contraint un peu plus les habitants à s'éloigner les uns des autres. Dans cette édition également, nous reviendrons sur le scandale à l'Université Paris Descartes et à son centre de dons de corps. Un charnier y a été découvert ces derniers mois. On apprend que l'établissement a été cambriolé. Les autorités sanitaires françaises recherchent donc activement les causes de la contamination de certaines personnes au coronavirus. Hier, nous avons appris la mort d'un patient à Paris, un homme de 60 ans, enseignant à Creil, dans l'Oise. Et c'est aussi de Creil que vient un autre patient, hospitalisé, lui, à Amiens. Il est âgé de 55 ans, il est dans un état préoccupant. On ne connaît pas encore l'éventuel lien entre ces deux hommes qui n'ont pas voyagé dans des pays à risque. Les épidémiologistes n'arrivent pas à comprendre comment ils ont pu tomber malades, Solène Lehen.
Contrairement aux autres cas en France, ces deux malades ne reviennent pas de Chine, de Singapour ou d'Italie ou n'ont pas été apparemment en contact avec un malade connu qui lui-même en revenait. Pour la première fois, les autorités ne trouvent donc pas de logique à leur contamination, ne parviennent pas à identifier le patient zéro qui leur a transmis le virus. En quoi est-ce problématique? Cela veut dire que ce patient zéro, c'est certainement un malade qui s'ignorait, quelqu'un qui avait très peu ou pas de symptômes, cela arrive. Donc un malade qui aurait pu contaminer ces deux hommes à la fois, ou même pire, deux malades, deux patients zéro qui s'ignoraient et qui auraient contaminé ces deux hommes séparément. Cela veut dire aussi que d'autres personnes de la région ont pu être infectées de la même façon. Et là, l'enquête sanitaire s'avère cruciale, car si on ne remonte pas rapidement jusqu'à la source, on ne pourra pas alors limiter la propagation du virus en mettant en observation tous les proches de ceux ou ces patients zéro. Cela pourrait signer le début d'une épidémie en France.
J'ajoute qu'au total, 18 personnes en France ont été contaminées par ce coronavirus. Sur le sol français, deux patients sont décédés. Pour les personnes mises à l'isolement, par ailleurs, en cas de soupçon, elles ont la possibilité d'être indemnisées, selon un décret paru au journal officiel le 1er février dernier. Indemnisation donc, 100 jours de carence, précise le gouvernement. On apprend aussi que les carnavals de Nice et la fête du citron à Menton dans le sud-est ont été annulés. Pour ce qui est du reste du monde, l'épidémie s'étend encore. 40 pays au total sont touchés et le nombre de contaminés augmente davantage en dehors de la Chine en ce moment que dans le foyer de l'épidémie. Les voyages d'un pays à l'autre en sont la principale cause. En Corée du Nord, par exemple, pays voisin de la Chine, le régime a mis en place des mesures extraordinaires. Cela isole un peu plus les habitants, Élise Delève.
Selon les experts nord-coréens, la stratégie d'isolement est la meilleure pour protéger le pays. Les frontières avec la Russie et la Chine ont été fermées. Pékin est pourtant le principal partenaire économique du régime. Chaque jour, des dizaines de travailleurs et de marchandises passent normalement la frontière. À l'intérieur du pays, les haut-parleurs, qui hurlent d'habitude la propagande du régime, énoncent désormais des consignes d'hygiène et des messages comme celui-ci. « Dîner ensemble, parler les uns aux autres, cela peut devenir le terrain principal de la propagation du coronavirus. » Il est donc demandé à la population d'éviter de se rassembler dans les lieux publics et les restaurants. Les autorités font également du porte-à-porte pour vérifier l'état de santé des habitants. Toute personne soupçonnée d'être contaminée est soumise à une période d'isolement de 30 jours. Les mesures sont encore plus dures pour les étrangers. Depuis le début du mois, ils sont tous en quarantaine à domicile. Les diplomates doivent rester dans les ambassades, privés de courrier diplomatique. Ils ne reçoivent plus de médicaments ni de fournitures. Même si le régime ne l'admettra jamais, le pays n'a pas les infrastructures capables de répondre à une épidémie et pourrait faire face à un chaos sanitaire. Il est quasiment impossible de savoir le nombre de cas de Nord-Coréens infectés par le coronavirus, mais d'après le régime, il n'y en a aucun.
En Corée du Sud, en revanche, le gouvernement lui communique et recense déjà 1595 personnes contaminées. C'est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus derrière la Chine. Hier enfin, notons que le président Donald Trump insistait lui sur le fait qu'une large propagation du coronavirus aux États-Unis n'était pas inévitable. L'Arabie Saoudite, de son côté, a suspendu sur son territoire l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque. Ce virus perturbera aussi sans doute le sommet franco-italien qui est organisé aujourd'hui en Italie, à Naples. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Giuseppe Conte vont afficher l'entente retrouvée entre les deux pays. Pour Paris, il est important, je cite, d'être présent aux côtés des Italiens et de coopérer dans ce contexte difficile. C'est le premier sommet de ce type depuis plus de 2 ans. L'affaire avait été révélée par le magazine L'Express le 27 novembre dernier et elle ébranle toujours le monde médical. Des corps donnés à la science étaient conservés dans des charniers à l'université Paris-Descartes.
Sans réponse satisfaisante depuis, les familles ont décidé de se réunir ce matin à partir de 11h devant le centre de Don, qui a depuis fermé ses portes sur décision ministérielle. Une manifestation silencieuse est organisée pour dénoncer le mur de silence entretenu par l'université. Il faut dire que le centre était dans un état incroyable, Céline Autain.
Des cadavres décomposés, des membres grignotés par les souris dans des salles vétustes et des chambres froides en panne. L'université Paris-Descartes tait pendant des années les conditions de conservation des dépouilles, incapable même de répondre aux familles qui souhaitent connaître la date d'incinération du corps de leurs proches. Certains cadavres ne sont même pas utilisés à cause de leur état. Plusieurs alertes sont lancées à partir de 2004. Des médecins responsables du centre écrivent à la présidence de l'université. La chef du comité d'éthique démissionne à l'automne 2017. L'université avance alors son manque de moyens financiers mais vote un plan de réhabilitation de 6 ans. Pourtant, une chape de plomb continue de peser sur l'état du centre et sur ses activités, car les corps font l'objet d'un trafic. Les chirurgiens doivent payer pour y avoir accès et certaines dépouilles sont vendues à des entreprises privées comme des constructeurs automobiles pour leurs crash tests, toujours sans en informer les familles. Une enquête administrative est désormais en cours, ainsi qu'une enquête du pôle santé publique du parquet de Paris. Le centre de Don est fermé. 24 plaintes contre X sont déposées par les proches pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. L'université va bientôt rencontrer les familles, mais ce rendez-vous arrive trop tard, estime leur avocat Frédéric Douchez, pour briser les années de silence entretenues autour du centre de Don.
Un centre de Don qui a donc été fermé, mais c'est une information de l'Express et de la cellule investigation de Radio France, mais le bâtiment a fait l'objet il y a quelques semaines d'un cambriolage. L'université a porté plainte, Élodie Guéguin.
L'intrusion a eu lieu de nuit au 5e étage de la fac, là où se trouvent l'administration et les chambres froides. Le ou les voleurs ont mis la main sur des cartons d'archives datant de ces 20 dernières années. Ils ont aussi pénétré le réseau informatique du centre du Don des Corps. Qu'ont-ils emporté? Ont-ils effacé des données compromettantes? La question se pose d'autant plus que la police est chargée d'une enquête très sensible pour atteinte à l'intégrité de cadavres. De nombreux documents et témoignages font état de corps en état de putréfaction, démembrés, entassés les uns sur les autres et rongés par les souris. Les enquêteurs avaient procédé à des constatations en décembre, mais ils avaient laissé derrière eux les archives du centre. Les familles espèrent que les investigations permettront quand même de déterminer qui, au sein de la prestigieuse université Paris-Descartes, savait dans quelles conditions étaient conservés ses corps.
C'était Élodie Guéguin pour France Culture. Comment être sûr que les détenus condamnés pour des affaires de terrorisme ne récidivent pas après leur sortie de prison? Deux sénateurs viennent de rédiger une proposition de loi qu'ils vont déposer dans les prochains jours. Ils veulent une mesure de suivi spécifique pour tous ces détenus. Ils demandent aussi un suivi socio-judiciaire qui pourrait être reconduit pendant 10 ans pour les personnes condamnées pour des délits, pendant 20 ans en cas de crime similaire à celui qui existe pour les délinquants sexuels. Les deux parlementaires, les Républicains, parlent de vides juridiques qu'ils veulent combler, une manière de prévenir en amont. Écoutez à ce propos le sénateur Philippe Bas.
Vous savez, si certaines mesures dans l'état d'urgence ou ensuite dans la loi de sortie de l'état d'urgence ont été critiquées, c'est d'abord par le Sénat qui a voulu les rendre temporaires pour pouvoir les évaluer avant de les confirmer et pour permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer. Par exemple, la loi de sortie de l'état d'urgence, ce sont 4 mesures dont le Sénat avait exigé qu'elles soient prise pour 3 ans seulement, pour vérifier qu'elle soit vraiment utile et pour vérifier qu'elle soit bien constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a dit oui, elles sont constitutionnelles. Par ailleurs, elles sont utiles. Ça, c'est ce qu'a démontré le rapport de Marc-Philippe Daubresse, notre rapporteur. Tout est conçu pour effectivement qu'il y ait des garanties suffisante, la possibilité de l'intervention d'un juge, des conditions très précises afin que le respect de l'état de droit soit assuré. Ça, c'est une exigence du Sénat. Nous voulons progresser dans l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais nous ne voulons pas baisser la garde en matière d'état de droit et de respect des libertés.
C'était le sénateur Philippe Bas avec Florence Sturm. Attention à la neige et au verglas sur le nord-est de la France. Aujourd'hui, du Pas-de-Calais à la Moselle en passant par l'Oise. Ailleurs, la pluie va tomber avec 3 degrés ce matin à Lille, 4 à Strasbourg et Lyon, 6 à Paris, 14 à Bayonne.
Vous écoutez toujours France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées et ce matin Jacques, vous revenez sur la proposition du groupe de travail des élus de la majorité sur le séparatisme islamique. Il demande la création d'un centre de formation indépendant du type École Nationale de la Théologie Musulmane.
Oui, il s'agit notamment de mettre fin au système des imams détachés qui importent souvent une vision de l'islam trop dépendante de leur pays d'origine, voire fondamentaliste. Dans La Croix, Francis Messner, spécialiste du droit des religions, évoque une structure juridique souple alliant un enseignement civique ainsi qu'en histoire ou sociologie de la religion, dispensée par l'État, et une formation théologique prise en charge par les instances représentatives musulmanes comme le CFCM, le Conseil français du culte musulman, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les instituts catholiques ou pour l'Institut protestant de théologie. Anouar Kbibesh, président du Rassemblement des musulmans de France, rappelle qu'il existe déjà en France 8 instituts de formation des imams rattachés aux grandes fédérations représentatives du culte musulman, plus 2 autres à Clichy et à Rennes dès la rentrée prochaine, sous l'égide de son association, et il plaide pour un véritable statut des imams français. Les 1800 imams qui exercent actuellement en France travaillent soit sous contrat d'animateur culturel, dit-il, soit ils sont bénévoles et reçoivent de petites indemnités des fidèles, ils n'ont même pas de couverture sociale. Concernant l'approche historique du Coran, Jacqueline Chabi vient d'offrir un bel exemple de sa méthode anthropologique dans un livre publié au Seuil sous le titre « On a perdu Adam, la création dans le Coran ». Religion monothéiste, l'islam partage avec les 2 monothéismes qui l'ont précédé de nombreuses thématiques, l'enfer et le paradis par exemple, ainsi que plusieurs figures prophétiques. Mais, souligne l'islamologue, si la création est bien présente dans le Coran, elle s'écarte complètement de l'optique biblique. Sa première occurrence associe en quelques mots un être parfaitement constitué, la guidance qu'il reçoit et le pâturage. Rapporté à son contexte d'expression, elle renvoie à l'homme pastoral de l'Arabie aride, créé immédiatement opérationnel. Il est guidé par son créateur sur la bonne piste, tandis que sortent de terre les pâturages du désert. Et la figure d'Adam est en quelque sorte évacuée. Pas de péché originel, ni de perte de l'Éden. Au contraire, la thématique de la création s'invite d'emblée de manière entièrement positive, comme pour faire contrepoids à l'eschatologie du jugement dernier et du châtiment. La figure d'un homme d'argile, d'abord significativement sans nom avant d'être ensuite reconnu comme Adam, ne sert que de déclencheur à l'entrée en scène du personnage hyper négatif d'Iblis, le Diabolos, Al-Shaytan. On a perdu Adam, mais on a retrouvé Robinson. Jean-Baptiste Bronnet, spécialiste d'Averroès, publie aujourd'hui chez Verdier une nouvelle adaptation du texte mythique du penseur andalou Ibn Tufayl, le vivant fils du vigilant, sous le titre Robinson de Gadix, avec une belle préface de Kamel Daoud. Tous deux en parlent dans les pages idées de l'Obs. Robinson, parce que c'est le conte philosophique d'un enfant débarqué sur une île déserte et qui découvre au fil des ans les lois de l'univers jusqu'à la transcendance divine au seul moyen de sa raison. Et parce qu'il a inspiré Robinson Crusoe après avoir été traduit par Pic de la Mirandole et avoir été le texte arabe le plus lu dans le monde occidental après le Coran et les Mille et Une Nuits. Robinson de Gadix, parce que son auteur, grande figure de l'islam andalou, était originaire de Gadix, dans la province de Grenade. Ibn Tufayl est un néoplatonicien qui tente de concilier Avicenne et Al-Razali en articulant rationalisme et mystique soufi, spéculation et intuition, résume Jean-Baptiste Brenet. Pour lui, en effet, l'intuition ne s'oppose pas à la philosophie, elle en est le couronnement, là où l'on finit par goûter ce que l'on sait. Kamel Daoud dit avoir été particulièrement sensible à l'épisode où Aï, c'est le nom du jeune héros, le vivant, découvre le cadavre de la gazelle qu'il a élevée. Dans son désespoir face au corps inanimé de sa mère, il ne découvre pas seulement la mort, il découvre son intériorité et la transcendance. En disséquant le corps, une pratique de la médecine arabe bien avant la nôtre, pour trouver la raison du mystère insondable, il parvient jusqu'au cœur et comprend que l'âme est un souffle et, je cite le texte, que sa mère, celle qui avait eu pour lui de l'attachement, celle qui l'avait allaité, était non pas devant lui cette force morte, ce corps éteint et puant, mais la chose disparue. Et c'est ainsi qu'il en vient à savoir que son cœur avait abrité un maître pour lequel seul il devait avoir de l'amour. Que dit Ibn Tufayl, un lecteur musulman du 21e siècle, demande Kamel Daoud, qu'on peut fonder une éthique de la vie sur l'exemple des règnes de l'être qui vont de la plante à l'astre en passant par l'animal. (Rire) 6h45 sur France Culture. Bien, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jacques.
Bonjour, j'atterris là.
Allez-y, je vous en prie.
Bon, vous nous parlez aujourd'hui, Julie Gacon, des manifestations qui reprennent au Chili.
Oui, après une période plus calme de quelques semaines qui correspondent aux grandes vacances d'été dans l'hémisphère sud, la rentrée sociale se fait à nouveau bouleversée. Dimanche dernier, des manifestants ont voulu faire annuler un très grand festival musical à Viña del Mar, juste à côté de Valparaiso. Les forces de l'ordre sont intervenues. Le face-à-face a occasionné des dégâts principalement matériels. Au plus fort du mouvement social, commencé le 6 octobre dernier, juste après l'annonce par le gouvernement de droite conservatrice, de l'augmentation de 30 pesos, autrement dit quelques centimes du ticket de métro, les affrontements ont fait 31 morts. Au-delà du prix du ticket de métro, les manifestants chiliens veulent remettre à plat les institutions politiques chiliennes et l'héritage de la dictature Pinochet. Ils ont obtenu que soit organisé le 26 avril prochain un référendum sur une nouvelle constitution, celle en vigueur ayant été écrite sous la dictature militaire. Bonjour Marion Di Meo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante à Sciences Po Aix et spécialisée dans le Chili et les mouvements sociaux. Il faut commencer, Marion Di Meo, par rappeler le contexte dans lequel la constitution toujours en vigueur aujourd'hui a été rédigée et adoptée. On est en 1980 et le général Pinochet est au pouvoir depuis 7 ans après son coup d'État.
Oui, tout à fait. Donc c'est le premier élément qu'il faut resituer un petit peu dans son contexte. Donc la Constitution de 1980 a été rédigée par notamment un juriste conservateur appelé Jaime Guzmán. Et cette Constitution est entrée en vigueur à l'occasion d'un référendum, donc d'un plébiscite, dont en tout cas les suspicions de fraude sont assez évidentes. Et donc un plébiscite organisé dans des conditions finalement assez dramatique pour le peuple chilien, et donc une constitution dont la légitimité est aujourd'hui évidemment remise en cause par les manifestants.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui dans la constitution actuelle de ce texte de 1980, ou plutôt de quoi a-t-il été épuré? Parce qu'il y a eu deux révisions constitutionnelles en 89, année de la chute de Pinochet, et en 2005. Donc qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Alors c'est vrai que en 1989, on est au moment des négociations de la transition démocratique, donc les principales, en tout cas la restriction des partis politiques, l'interdiction des syndicats, ce genre de choses, sont transformées, les registres électoraux sont mis à jour au vu des prochaines élections. Et en 2005, un certain nombre de dispositions constitutionnelles ont été abolies, notamment le fait que les responsables de l'armée et de la police n'étaient pas soumis au pouvoir présidentiel, donc cette disposition a été abolie. Les sénateurs à vie qui étaient en place dans la Constitution de 80 également ont été abolis. Donc tout un ensemble de dispositions constitutionnelles ont permis, si vous voulez, de lisser un petit peu ce texte. On a eu également récemment une réforme du système électoral pour installer un système proportionnel. Donc un ensemble de réformes, si vous voulez, pour essayer d'épurer un petit peu cette constitution, mais le sceau dictatorial de cette constitution demeure, le fait qu'elle ait adopté. Elle a été adoptée en dictature, demeure un élément finalement de limitation politique à l'heure actuelle.
Ça a été par exemple remis en question lorsque le président Sébastien Piñera a décrété, c'était donc toujours en octobre dernier, pendant une semaine face aux manifestations, l'état d'urgence. C'est la première fois que ça arrivait depuis la chute de Pinochet, c'est ça, un état d'urgence qui est lui aussi régi par cette constitution écrite pendant la dictature et qui consiste en quoi alors spécifiquement au Chili?
Alors, la particularité de l'état d'urgence au Chili, c'est que les zones en fait dans lesquelles il est déployé, ces zones-là sont placées directement sous commandement militaire. Et donc, c'est une des raisons en fait qui explique le déploiement de l'armée dans les manifestations récentes, hein, donc le déploiement de l'armée par les gouvernements dans les zones qui ont été placées sous état d'urgence. C'est vraiment une des spécificités, hein, en France, quand l'état d'urgence est déployé, c'est la police qui reste aux commandes, hein, de la manœuvre, notamment en termes de maintien de l'ordre. Dans le cas chilien, et c'est encore un héritage de la Constitution de 80, l'état d'urgence institue donc que les zones sont placées sous commandement de l'armée. Et donc, ce qui explique, hein, qu'on ait vu les chars à nouveau dans les rues de la capitale et d'autres villes du pays, hein, sous les yeux finalement assez ébahis de la plupart des Chiliens.
Alors d'ici le référendum du 26 avril, Marion Di Meo, il était prévu que des consultations locales aient lieu dans tout le pays pour savoir ce que les Chiliens attendent d'une éventuelle nouvelle constitution. Est-ce que vous avez des échos de cette consultation locale ?
Alors, ce qui a été organisé, c'était en décembre de l'année dernière, hein, l'association chilienne des municipalités, donc l'équivalent de l'association des maires de France, s'est engagé à organiser une consultation citoyenne dans 330 des 345 municipalités du pays. Et donc ces consultations locales ont bien eu lieu, environ 2 millions de personnes, hein, ont participé à cette consultation. Ce qu'il en ressort majoritairement, c'est la volonté de se doter d'un nouveau texte constitutionnel, d'une nouvelle constitution. En parallèle de cette consultation, tout un ensemble d'ateliers, de débats, de discussions ont été organisés au niveau local par les partis politiques, en tout cas les partis politiques de gauche, par des associations, par des syndicats, par tout un ensemble d'organisations sociales, en fait, pour essayer de non seulement de sensibiliser les Chiliens à la nécessité de changer un des textes, mais aussi pour faire remonter des suggestions, des demandes sur ce que devrait contenir en fait ces textes de constitution.
Voilà, le référendum comportera deux questions. Est-ce qu'il faut remplacer ou pas la constitution? Et aussi sur la méthode pour la rédiger, une assemblée constituante ou pas. Donc c'est vraiment une période de campagne politique qui s'est ouverte au Chili là, à 2 mois du scrutin. Mais quels sont, Marion Di Meo, les arguments de ceux qui veulent que soit maintenue la constitution en l'état?
Alors, il faut d'abord relever, hein, que cette argumentation relève principalement des partis de droite et d'extrême droite, et notamment de la droite pinochettiste. Donc il faut y voir là, en tout cas de mon point de vue, une volonté de maintenir le statu quo actuel. Hein, un des principaux arguments de la droite, c'est que finalement les choses sont bien en l'état, et donc pour une droite qui revendique clairement l'héritage pinochettiste, changer de constitution, c'est évidemment en quelque sorte un trahir le projet d'Auguste Pinochet. Il y a également, bien sûr, l'argument classique qui est agité par la droite chilienne de manière assez récurrente au moment des élections, l'argument de l'agitation sociale, oui, mais regardez, l'extrême-gauche propose de repartir à zéro, l'extrême-gauche ne veut pas la paix sociale, l'extrême-gauche chilienne ne condamne pas la violence politique, et donc l'extrême-gauche est appelée à rédiger une nouvelle constitution. Et l'argument de l'ordre, de la sécurité, hein, est un argument qui est quand même assez récurrent dans les débats politiques, et que la droite, hein, comme je vous disais, agite volontiers la menace du désordre, veut que le Chili se transforme dans le nouveau Venezuela, que le Chili devienne le nouveau Venezuela. Vous voyez, c'est ce genre d'argumentation, en fait, qui cherche en tout cas à instaurer la peur dans l'électorat chilien et qui semble, cette fois-ci, en fait, ne marche pas du tout dans cette campagne.
Alors, comment se fait-il que la transition qui s'est engagée après la chute du général Pinochet n'ait pas renversé la table, entre guillemets, que la démocratie représentative qu'elle a installée n'ait pas marqué de rupture plus nette?
Il faut réfléchir un petit peu, en fait, à l'état des rapports de force à un moment de la transition démocratique. Au Chili, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, mais particulièrement au Chili, ce sont vraiment les militaires qui ont piloté la transition, qui étaient en position de pouvoir, hein, aussi bien dans les institutions militaires que dans les institutions politiques, qui disposaient d'alliés politiques, donc notamment certains partis de droite. Et donc, la coalition de centre-gauche, hein, n'a pas été en mesure, en tout cas, n'avait pas le poids politique nécessaire pour imposer et pour finalement demander un changement de constitution, demander des réformes structurelles. Hein, donc elle a dû gouverner dans les marges de manœuvre strictement léguées par les militaires, hein, qui étaient en position de force. Peut-être rappeler à vos auditeurs, hein, que le général Pinochet s'est quand même maintenu à la tête de l'armée jusqu'en 1998, suite à quoi il est devenu sénateur. Donc c'est un personnage, hein, qui avait encore énormément de pouvoir politique et militaire, hein, après la transition, et ce pouvoir a mis énormément de temps à s'estomper, et les forces armées chiliennes ont mis du temps à rentrer dans le rang. Si je m'exprimer ainsi.
Alors, la contestation d'octobre, et qui semble reprendre progressivement, était politique, elle était aussi sociale, bien que le Chili soit un pays plutôt prospère, avec une classe moyenne importante, des salaires qui augmentent, mais avec des richesses très mal réparties. Est-ce que les structures sociales d'aujourd'hui sont aussi un héritage de la dictature, et comment ?
Oui, elles le sont tout à fait. Hein. Il faut réfléchir, enfin il faut en tout cas penser au fait que le modèle économique actuel en vigueur au Chili a été mis en place pendant la dictature par un groupe d'économistes chiliens connus sous le nom de Chicago Boys. Hein. Ce sont donc des économistes chiliens qui ont été formés à l'université de Chicago sous la houlette de Milton Friedman et qui ont donc appris tout un ensemble de recettes économiques qui ont ensuite été proposées au général Pinochet au début des années 70 comme alternative au modèle économique en vigueur jusque-là au Chili. Et donc, c'est à partir de la fin des années 70 qu'un ensemble de réformes structurelles au niveau économique ont été mises en place. Donc, notamment, la privatisation du système de retraite, la décentralisation du système d'éducation, la privatisation des ressources naturelles, du système de santé, et j'en passe.
Merci beaucoup Marion Dimeo. On n'aura pas eu le temps de rappeler aussi qu'aujourd'hui tous ceux qui ont moins de 30 ans au Chili n'ont pas connu la dictature, et ça change quelque chose au climat social, à la mobilisation qu'on peut voir se lever depuis le mois d'octobre. Merci Marion Dimeo. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante à Sciences Po Aix, et je vous souhaite une bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un roi sans divertissement sur France Culture. Roman policier, récit psychologique, plongeant dans les zones d'ombre de l'âme humaine, l'ennui existentiel, la fascination exercée par le mal, un jeu de pistes sur fond de neige éclaboussé de sang.
On ne sait pas exactement la date, mais enfin 15, 16 ou 17, c'est un de ces trois jours-là, le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte.
Qui aura le dernier mot ? Un roi sans divertissement de Jean Giono, à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr. L'histoire, autrement sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Il faut nourrir le peuple. Que la population mange à sa faim est une nécessité pour le pouvoir, sous toutes ses formes, royales ou républicaines, municipales ou nationales. De la première graine aux revendications paysannes, de la culture céréalière à l'élevage bovin, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la bidoche.
Il faut nourrir le peuple. Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Il est 6h57, vous écoutez France
voilà.
Culture.
Bonjour Julie Gacon.
Pourquoi
bonjour.
Voilà.
Et ben voilà, c'est 6h57,
l'heure. C'est l'heure de vous retrouver pour votre humeur du jour, Guillaume. Et on note, mais encore, une nouvelle épidémie.
Ah, je vais essayer de parler que de ça, toute la semaine. Chaque jour, sa nouvelle pathologie. Là, c'est une pathologie lexicale, Julie. C'est pas forcément les moins graves, hein, puisque mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, selon la citation à la fois archi-usée et probablement apocryphe du camarade Camus. Donc là, on doit faire face à une irruption de populisme sanitaire, et c'est très grave. Le populisme sanitaire, selon ses détracteurs, c'est l'idée fausse que l'on pourrait se protéger du coronavirus en réintroduisant des frontières, du protectionnisme. Bref, on garde nos virus français, on refuse les microbes étrangers. Alors, en toute logique, le populisme sanitaire est censé s'opposer au progressisme sanitaire. Le progressisme sanitaire demeurant favorable aux échanges à l'intérieur de l'Europe, du monde, à condition, bien entendu, qu'on soit entre gens de bonne santé. Et j'imagine que le progressisme sanitaire pour abattre le populisme sanitaire prévoit moult normes, règlements, mécanismes, sans amendements, puisque les amendements, ça conduit au 49.3 et le 49.3, par temps d'épidémie, c'est un chiffre beaucoup trop élevé pour être assumé, même si l'époque de vous à moi ne fait vraiment pas penser à 37.2. 37.2, c'était un film où une jolie fille et un joli garçon pratiquaient le multilatéralisme amoureux, je le précise, hein, pour les moins de 20 ans, qui sont tombés du lit. Pour le reste, le populisme sanitaire ouvre de nouvelles perspectives, la poursuite de la politique par d'autres moyens. Puisque les Français se désintéressent plutôt de la politique, Julie, une bonne façon de les ramener vers la chose publique et peut-être de leur tenir un discours médical. La maladie, c'est quand même beaucoup plus concernant que la cuisine politique. Autour de moi, si je propose de passer un moment avec un leader politique ou avec Michel Simès, il n'y a pas photo, je sais qui va être préféré. À la suite du populisme sanitaire, on pourrait évoquer le séparatisme pathologique préférable au communautarisme maladif, la social-démocratie virale préférée à l'autoritarisme pandémique. Après tout, ça fait longtemps qu'il y a des maladies de droite et de gauche. Jadis, le chanteur Renaud disait que les ulcères, c'était pour les prolos, les cancers, pour les riches, parce que c'était un peu plus cher. Depuis, je le crains, le cancer s'est démocratisé, comme quoi l'égalitarisme sanitaire, ça a aussi ses défauts.